commence l'émission. Music and Lore. Avec Rémo Tatin. Musique et Nol n'est pas seulement qu'une émission de radio, c'est aussi une association qui organise des manifestations, concerts, one-man shows, théâtre, pour vous faire découvrir des artistes de la région, mais aussi de toute la France et de l'Europe. Nous avons la chance d'avoir notre parrain, qui est Simon Fage, depuis la création de l'association. Bienvenue dans votre émission.
Chers auditeurs, votre mission, si vous l'acceptez de l'entreprendre, sera d'écouter cette émission et de vous divertir. Si vous veniez à être pris en train de nous écouter, nous serions dans l'obligation de vous remercier chaudement. Cette bande ne s'autodétruira pas dans les 30 secondes.
Les auditeurs, on est à Lunéville, dans l'Est, en Moselle, on va dire. Et je suis en compagnie de Colette Cazin, bonjour.
Bonjour.
Et en compagnie de Sébastien Martinez, bonjour.
Salut tout le monde.
Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici ?
Eh bien, on est en tournée, là. En tournée avec tous nos spectacles un petit peu partout en France. Et donc là, c'est une étape repos en attendant de reprendre ce week-end.
Colette, t'es comédienne ?
Oui, c'est ça.
Depuis quand ?
7 ans, 8 ans.
Et tu joues les pièces de ?
Je joue les pièces de Sébastien Martinez.
Parce que tu es metteur en scène, auteur.
Exactement.
Pas compositeur, tu fais pas encore les musiques ?
Non, pas de musique, pas encore.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou, et le bonheur par en dessous. Joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, seul des gels, des amants. Joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis. Joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté. Joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil.
De toute façon, quoi que tu fasses, ma chérie, tu seras la plus belle de la soirée, hein. Mais ton dernier mot?
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Me faire l'appel à une amie? Bien sûr que c'est du vrai.
Je préfère chez moi mon physique ou mon intelligence?
Ton humour.
Ah, j'ai l'encouragé pas.
Est-ce que tu peux nous présenter les pièces?
Oui, il y a une dizaine, voire une quinzaine de pièces. On est toujours dans l'humour. On est là pour se marrer, pour faire rire les gens, pour oublier tous les problèmes. On vient, on pose le cerveau, on rigole, on repart et les gens nous disent que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je vais dire quelques titres. Notre plus gros succès, c'est Mars et Vénus, Tempête au sein du cou. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est une pièce. Quand on est en couple, on se fout de sa gueule à soi. Et si on n'est pas en couple, c'est pas sûr qu'en sortant de la salle, on va aller s'inscrire sur Mythique. Hein. Panique à la maison de retraite, c'est... Une petite mamie de 80 ans qui vient râler sur sa condition, qui râle un petit peu sur tout. C'était l'ancienne concierge de l'Élysée. Et là aussi, on rigole beaucoup, tous ensemble. C'est très interactif. On se marre bien également.
Elle râle, mais est-ce qu'elle balance ?
Ah oui, elle balance. Ah oui, elle peut tout dire. Hein. Et elle ne gêne pas pour le dire. Donc oui, elle balance beaucoup sur la politique, sur tout. Sur, tout ce que, sur toute la vie qu'elle croise tous les jours et... Elle a une bonne gouache, donc elle ne gêne pas pour le faire et ça, c'est très drôle. Bien sûr, on est là pour se marrer.
Jean-Pierre, en pétant, Jean-Pierre. Alors, j'ai rien contre toi, Jean-Pierre. T'es plein de sourires et tout. Si je t'avais vu, tu te serais mis plus lourd. Pas mal aussi. J'aime bien. Mais je me méfie toujours des prénoms composés de deux prénoms. Il paraît que ça fait des serial killers. Alors, moi, je suis allé sur Internet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il paraît que c'est des tueurs. Alors, je n'invente rien, hein. Émile Louis. Qui, Georges? Claude François. J'aime pas de rien.
Quoi, il y a combien de temps que t'es comédien?
Moi, il y a 20 ans.
Et c'est quoi ton parcours? Tu faisais quoi avant d'être comédien? Pourquoi t'as eu envie d'être comédien? Et à quel âge?
Donc, moi, j'étais pâtissier jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à mon anniversaire, j'ai dit, tiens, je vais faire un sketch pour faire rire les gens.
C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non?
Et j'en ai écrit 3. Donc, c'était devant mes amis, hein, comme ça, pour s'essayer. Ça s'est plutôt bien passé. Puis, je me suis mis à aller dans les campings, jouer gratuitement.
Alors, on n'attend pas Patrick?
J'étais à Sigean, non loin de Perpignan. Et il y avait la boîte arrière de Perpignan qui venait d'ouvrir. Et je suis allé les rencontrer. Ça a matché et c'est comme ça que tout doucement, après de rencontre en rencontre, j'ai rencontré Anthony Joubert. J'ai fait ses premières parties et c'est là que les choses se sont mises en place. Et 2 ans plus tard, je commençais en professionnel.
Alors, tu as rencontré beaucoup de monde parce que dans ton One, tu remercies quand même Anthony, mais tu remercies 2 autres personnes aussi.
Ben oui, Ludovic Givron, c'est l'auteur de Panique à la maison de retraite. Lui aussi, il a beaucoup compté dans ma carrière.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Ex Le Quid, lui, c'est le plus important. C'est lui qui gratuitement m'a mis en scène, m'a beaucoup conseillé. C'est des gens importants pour moi.
Donc, de belles rencontres.
Ouais, grave.
Comment ça se passe? Tu es pâtissier la journée et la nuit. Et après, ça se passe comment? C'est quoi l'évolution?
Donc, au début, effectivement, je suis pâtissier. Et j'ai eu la chance à un moment donné d'être dans une pâtisserie où je travaillais 3 jours. Donc 3 jours, je faisais plus de 35 heures en 3 jours. Et j'avais 4 jours de repos. Donc en fait, tous les week-ends, j'étais libre. Et c'est là que j'ai fait les premières parties d'Anthony Joubert et qu'on m'a proposé de jouer. Donc à l'époque, je jouais mon one-man show, on est tous le con d'un autre. Enfin, il y en a qui ont de l'avance. Et donc je jouais à Perpignan. Dans ce petit théâtre, et je faisais mes gammes, hein, j'apprenais, j'écoutais tout ce qu'on me racontait, tout ce qu'on m'expliquait, et puis c'est comme ça que... Après, ils m'ont mis à jouer dans des pièces, et puis on a avancé comme ça, quoi. Et puis, à un moment donné, dans la pâtisserie, il a fallu licencier quelqu'un, j'ai dit, dans ces cas-là, c'est moi. Et comme ça, j'avais 1 an pour faire l'intermittence. Et Vincent, de la boîte à rire, il m'a dit, ok, on part ensemble. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré.
Le sketch, ton one, il commence à s'écrire comment, quand, et il est finalisé quand?
Pour l'anniversaire de mes 30 ans, donc je joue 3 sketchs. Et dans la 2 mois qui suivent, j'écris le spectacle entier.
Ah ouais? Donc en fait,
moi, quand je suis arrivé à la boîte arrière, j'avais un spectacle. Donc en fait, je vais voir Anthony Joubert à la boîte arrière. C'est là que je les rencontre. En même temps, j'avais un book. Donc je lui donne à Vincent, et Vincent me dit ok, et au mois d'août suivant, 2-3 mois plus tard, il me programme. Et là, au début, j'avais 3-4 personnes dans la salle, donc j'étais content. Et donc, il me dit, écoute, on va t'aider à avancer. Et c'est comme ça que... Et puis donc, 2 ans plus tard, mon patron, il dit, on va devoir... J'étais chef pâtissier dans la boîte, et il m'a dit, il va falloir qu'on sépare de ton second. Et j'ai dit, bon, bah, laisse-moi 3 jours, ne lui dis pas pour l'instant. Et puis, j'ai téléphoné à Vincent, il m'a dit, ok, viens avec nous. Je vais te faire jouer dans plein de pièces et puis tu seras intermittent du spectacle. Laisse-moi faire. Et du coup, comme ça que l'histoire commence.
Tranquille.
Et donc voilà, il me fait faire dans la foulée un an plus tard le Festival d'Avignon. Et ça cartonne.
Monsieur Complet.
En même temps, on l'a pas fait exprès.
Et toi, Colette, t'arrives comment alors ?
Oh, ben moi, j'arrive par amour. J'ai rencontré Seb sur un site de rencontre. Et puis, on a discuté. Et puis, il m'a dit, je suis comédien. Je lui ai dit, ah bon ? Et donc, il m'a dit, si tu veux, tu peux venir au spectacle ce soir. Je joue. C'était à la Boîte à Rire à Lille. Donc, j'y suis allée. Et puis, on a discuté, et puis on est tombé amoureux. Voilà, et comme j'étais souvent à la Boîte à Rire, j'accompagnais beaucoup dans l'accueil, aussi un peu dans l'administratif, etc. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un spectacle, je me suis pris à faire la petite chauffe avant que le spectacle ne démarre.
Mais tu as fait un peu de régie aussi.
J'ai fait de la régie aussi, ouais. Je crois que j'ai fait un peu de tout. Et donc la petite annonce avant que ça démarre, plus ça allait, plus je restais sur scène. pas prête à sortir. Et puis je trouvais ça plutôt très, très jouissif. Et puis Sébastien, un jour, il m'a dit... Je n'étais pas prête à monter directement sur scène, même si Sébastien me disait, tu peux le faire. Puis un jour, il a écrit Mars et Vénus, Tempête de Mars et Vénus. Et puis, il avait une comédienne avec qui il jouait régulièrement. Et puis, il m'a donné à lire. Et puis, je lui ai dit, si tu veux, celui-là, je me sens prête de le jouer. Donc, ça a commencé par ce spectacle-là, Mars et Vénus, Tempête au sein du couple. Et ça a été rapide. Hein. On l'a joué à la Boîte à Rire quelques temps, au mois de février. Et puis très vite, on est parti en tournée. Donc l'aventure a commencé. Donc au début, moi, j'étais pas comédienne professionnelle. J'ai fait mes gammes aussi, mais cette fois, à la Boîte à Rire à Lille. J'avais un autre travail. J'étais fonctionnaire.
En fait, tu travaillais jour et nuit.
Faut pas exagérer non plus quand même.
La journée au boulot et puis le soir voilà. Au théâtre.
C'est ça, le week-end au théâtre. Et le week-end, on partait en tournée aussi. Donc, c'était une vie remplie, on va dire. Et puis, après, j'ai fait le choix d'arrêter d'être fonctionnaire et puis d'être complètement comédienne à temps complet. Voilà.
Et voilà le résultat.
Ah, t'étais fonctionnaire.
Oui, j'étais fonctionnaire.
Ah ouais, tu travaillais pas, quoi.
Si, moi, je travaillais.
Ils disent tout ça, moi, je travaille.
Oui, c'est ça. Et je reconnais qu'il y en a qui ne travaillent pas.
Donc du coup, Internet adopte un comédien.com, ça l'a fait.
Oui, c'est ça.
Donc c'est le titre de la prochaine pièce, non?
Non, c'était la pièce, je me souviens, quand je l'ai vue pour la première fois, ça s'appelait « Elle couche avec un comédien ». C'était prédisposé. Voilà.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Tu as été directeur de la Boîte à Rire à Lille.
Exactement. Ludovic Givon, il avait ouvert ce théâtre, un magnifique petit théâtre en ville à rue Gambetta à Lille. Et lui, il avait du mal à gérer. Il en avait 3-4 des théâtres. Il avait du mal à le gérer, celui-là. Et donc, il m'a proposé de l'ordre. Il l'a ouvert en septembre 2013. Et moi, j'arrive le 1er janvier 2014.
Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
Exactement. Rencontré plein de monde, toute une petite troupe. Et donc, on s'est bien amusé tous ensemble à monter des pièces et à bien s'amuser, quoi. Ouais, ça a été une belle aventure. Ça a duré 10 ans. Très, très bien.
You want a good time.
Et il y en a eu des passages là-dedans de comédiens, de pièces.
Ah oui, c'est la vie d'un théâtre. Il y en a qui viennent et qui restent tout le temps. Et puis il y en a qui viennent, qui sont de passage. Des belles rencontres tout le temps, en tout cas.
Il y en a qui s'incrustent.
Oui, oui, c'est ça.
On va revenir un petit peu en arrière.
Ok.
Tu quittes la boulangerie pour revenir comédien. Tu vas à la boîte à rire. De la boîte à rire, tu fais le Festival d'Avignon.
Ouais.
Qu'est-ce qui suit après ?
Oh ben c'est beaucoup à Perpignan, énormément, parce qu'ils me font jouer là. Puis des mini-tournées un petit peu dans la région. Et puis chaque année à Avignon. Et après,
mais tu ne tournes pas qu'avec ton moine, tu fais des pièces aussi.
Ouais, des pièces montées par Vincent. C'est comme ça que j'apprends, en fait. Là, à ce moment-là, je suis en train d'apprendre le métier. Parce qu'un un seul en scène, c'est un autre métier que jouer dans une pièce. Du coup, bah, j'apprends. J'avais jamais joué dans une pièce et je joue dans plein de pièces. Et puis, à un moment donné, il me propose le sexe pour les nuls. Mais j'ai 15 jours. En fait, un mec le plante. C'est programmé à la boîte arrière de Perpignan. Et le mec, il est planté et il me dit, écoute, si en deux semaines, tu relèves le challenge, ce spectacle, tu l'as et tu feras la tournée des casinos. Ou tu feras... Et du coup, ben, j'ai relevé le challenge et ils m'ont beaucoup aidé. Et là, ça a été... On est tous le con d'un autre, ça cartonnait bien. Et là, c'était le deuxième succès qui cartonnait encore plus. Et là, je remplissais des salles de 200-300 places. Et seul en scène également, mais j'avais beaucoup appris en jouant dans les pièces. Et même dans mon one, j'ai beaucoup progressé grâce à ça. Et là, ça a été vraiment le début d'une grosse aventure, vraiment du monde dans les salles et une corde de plus à mon arc, quoi.
Alors moi, il y a un truc, tu nous as toujours dit que tu apprenais tes textes sur les plages.
Ouais, c'est vrai. Surtout, on est tous le con d'un autre, ça a démarré, j'y allais à la plage à Port-la-Nouvelle. Il y a une plage sauvage où il n'y a pas de voiture. Et donc, je venais là. Et là, parce que dans la chambre, tout seul chez moi, il n'y avait aucun trou de mémoire. Mais sur une plage, il y a le bruit de la mer, le bruit du vent, le bruit des mouettes qui crient, un mec qui promène son chien. Et là, ça m'a appris à, quand il y a un mec qui va réagir dans la salle, je savais répondre et revenir à mon texte. C'est vraiment ça que ça m'a appris. C'est-à-dire pas jouer dans un silence, parce qu'il n'y a pas tout le temps un silence dans une salle. Donc, j'ai appris ça grâce aux mouettes.
Par contre, dans le sud, c'est les mouettes rieuses.
Oui, c'est ça, en plus. En plus, ouais, c'est un peu ça.
Si on trouve des photos de Julien Robert sans string, on peut bien trouver les photos de ce rigolo.
Ton one, on en parle encore, parce que tu le joues toujours.
Oui. Il a évolué. Ça va faire 20 ans, là, ouais.
Il a évolué, il y a des sketchs qui ont changé.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler de tout ça ?
Oui, c'est un seul en scène qui s'appelle « On est tous le con d'un autre ». Enfin, il y en a qui ont de l'avance. Et même les cons, ils évoluent. Donc,
ils vieillissent aussi.
Voilà, c'est ça. Quand à l'époque, j'ai 30 ans et aujourd'hui, j'en ai 48. C'est sûr que même ma vision du monde, elle a changé. Donc, je suis obligé d'évoluer. À l'époque, je parle du Pôle emploi. C'était la NPE au début, suite Pôle emploi, France Travail. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis comédien. Je ne suis plus allé du tout chez France Travail depuis longtemps. Je suis moins dans le sketch du jeune qui arrive et qui cherche un travail et qui se fait balader, monter dans les étages. On redescend, mais non, mais l'autre, elle a dit que c'était là-bas. Enfin, voilà, c'était ça. Et donc, ce sketch n'existe plus. Et il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Vraiment, ça a évolué au fur et à mesure. D'ailleurs, l'intro du spectacle démarre avec le Covid, en fait. Et je fais écouter toutes les conneries qu'ils ont racontées les politiques en partant dans tous les sens. Il fallait pas, au début, ils disaient qu'on ne devait pas mettre de masque. Donc certainement qu'il n'y avait pas assez de masques pour tout le monde. Hein. Donc ils nous avaient dit ça. Donc j'ai fait un petit sketch où j'échange avec ma mère au téléphone en lui disant qu'est-ce que tu fais avec tous ces masques. Et puis je fais écouter vraiment l'évolution de tout ce qu'ils ont dit, tous. Puis d'un seul coup, les masques sont obligatoires, il en faut absolument. Et les gens, quand ils entendent, ils rient plus à ce que les politiques ont dit que ce que moi je raconte. Donc voilà. Donc voilà, il faut essayer de faire rire avec tous les problèmes qu'on a. Le pitch, c'est un peu ça. On prend toutes les galères qu'on a tous ensemble et on en rigole tous ensemble. C'est mieux qu'une séance de psy. Hein. Ça dure une heure et demie, au bout d'une heure et demie, t'es guéri. Et pour 20 balles, ça vaut le coup. Hein. Ils nous ont piqué notre boulot. Nous, on veut bien être confinés, ne plus travailler. C'est pour la bonne cause. Bon, enfin, faut pas nous piquer notre boulot quand même. Hein. Non, ils ont été bons quand même, hein, les politiques. Hein. Vous pourrez aller dans les stations de ski, hein, mais il n'y aura pas de remontée mécanique. Mais c'est des génies. Hein. Vous pourrez aller dans les parcs d'attractions, mais il n'y aura pas de manège. Bon, ben, je vais aller au parc en bas de chez moi, ça ira plus vite. Hein. Seul but, c'est toujours faire rire. Puis aussi des petites poésies, des choses. Ça, il y en a toujours eu depuis le début. Voilà les choses qui me touchent dans ce monde actuel, mais je le raconte en poésie pour faire naître d'autres émotions. Je trouvais que c'était casse-gueule de parler politique, donc je voulais pas faire ça. Je voulais prendre des sujets que tout le monde vit dans la vie, quoi. Mais au fur et à mesure, ça m'a intéressé et surtout j'ai trouvé l'angle pour en rire, parce que c'était surtout ça, c'était vraiment de rire du truc. Et rarement en se moquant des politiques, en prenant les phrases qu'ils ont dit. Eh ben une phrase, c'est une phrase, on en dit tous des conneries. Et eux, ils parlent sans arrêt à la télévision. Sinon, on nous enregistrait à longueur de temps, on dirait autant de conneries qu'eux. Mais peu importe, c'est les mettre devant leurs contradictions, parce que des fois, ils disent une chose et 5 ans plus tard, complètement l'inverse. Donc c'est quand même rigolo Puis des fois, on a vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des cons. Hein. Quand Sandrine Rousseau, elle a dit... les SDF meurent plus de chaleur en été qu'en hiver. Heureusement qu'elle nous l'a dit, parce que nous, on ne l'aurait pas. et là, je parle d'elle, mais voilà, c'est une phrase pour elle, mais il y en a plein. Il y en a plein. Je suis même allé loin avec les De Gaulle, avec les. Voilà, Churchill. Avec Clémenceau, Churchill. Churchill, il y en a. On pourrait faire un spectacle. Hein. Voilà.
Chirac
est très très bon. Hein.
Chirac, il a été bon tout le temps.
Wow, ouais.
À la rigueur, c'est peut-être le meilleur qu'on ait eu.
Oui.
En comique, c'est le numéro 1. Ah, il dit je n'ai jamais trompé ma femme, je me suis trompé de femme. Ah, ouais. Quand tu dis ça, que tu es encore avec ta femme, faut pouvoir les porter quand même. Hein.
Colette, toi alors, tu joues dans plein de pièces.
Oui.
Tu sais ce que tu peux nous dire, les pièces et faire les pitchs?
Alors, donc, Sébastien parlait de Mars et Vénus, Tempête au sein du couple. Ça, c'est la première que j'ai jouée, qu'on continue encore à jouer aujourd'hui. Une autre qui est un peu sur la même mécanique que Mars et Vénus, c'est Au secours, ma femme veut jouir. Donc, celle-là, c'est même personnage que pour Mars et Vénus, Seb et Colette. Et Colette, à l'aube de ses 50 ans, elle demande à son mari de la faire jouir, parce qu'elle n'a pas encore trouvé le truc jusqu'à maintenant. Donc le pauvre malheureux, qui est sexologue par ailleurs, bah, il essaye un certain nombre de choses, mais ça ne marche pas. Donc voilà, c'est une succession de situations. Ce qui est bien dans cette pièce, c'est qu'au-delà de rire de ce sujet qui peut paraître un peu tabou parfois, on apprend plein de choses, parce que dedans, il y a pas mal d'informations qui sont des informations vraies. Et on dit souvent que c'est même une pièce pédagogique. On peut apprendre aussi des choses. Voilà, donc ça rigole beaucoup dans cette pièce aussi, comme dans toutes les autres. Donc ça, c'est « Au secours, ma femme veut jouir ». Et puis après, j'en ai fait d'autres. « Notre drôle histoire de France », donc là, rien à voir. Donc, c'est sur toutes les anecdotes de l'histoire de France qu'on ne nous a pas racontées à l'école, et des anecdotes qui sont assez savoureuses. Une petite dernière, là, super connasse, je suis une connasse et j'assume. Donc là, c'est un seul en scène. Ça balance sur les mecs, ça balance sur les belles-mères, ça balance sur les gosses, sur les grossesses, sur les fonctionnaires. Donc là, c'est aussi assez savoureux de jouer ça, parce qu'en fait, elle est sans filtre. Et donc, elle dit tout ce qu'elle a envie de dire. Elle a 50 ans et elle se permet. Voilà. Comme, et les gens, en général, les nanas, mais pas que, il y a aussi les mecs qui viennent me le dire, ils disent, bah, en fait, voilà, on le pense tout ce que vous venez de dire, mais nous, on n'ose pas forcément le dire.
Comment vous faites pour en mettre plus à côté que dedans, sans blague ? Oh, bah tiens, Simon. C'est si compliqué de viser le trou, là.
C'est parce que des fois, on ferme les yeux, on fait des tests. Ah.
T'as fait des pièces enfants, t'as
oui,
fait.
Oui, oui, on a fait des Robin pièces enfants.
Robin des Bois, Mickey.
A... Voilà.
Les contes de Noël.
Les contes de Noël. Mickey, le fabuleux monde de Mickey. Donc là, ça n'a rien à voir. Hein. Donc c'est Mickey.
Ah bon.
Oui, ça n'a rien à voir.
Il
avec.
Veut pas jouer.
Non, 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 non. Donc je suis en mascotte de Mickey et j'interprète donc ce monde fabuleux, ce fabuleux monde. Et puis pour Noël, j'ai monté un spectacle de lecture théâtralisée de contes de Noël que j'ai sélectionné. Donc les spectacles enfants, ça dure 40 minutes. Et l'idée des contes, c'est un autre travail. C'est vraiment d'emmener les gens, d'emmener le jeune public dans ces histoires. Et ce qui est assez intéressant dans ce travail sur les lectures, c'est qu'on a un rôle vraiment de conteur. Et ça, c'est un rôle que j'apprécie particulièrement. Donc, c'est des contes que j'avais sélectionnés aussi avec un peu d'humour, puisque c'est un peu notre marque de fabrique. Voilà, et puis Joyeux Noël, Joyeux Bordel. Enfin, bref, il y en a d'autres aussi qu'on a montés.
Alors, si on veut vous voir, vous êtes partout en France. Et comment on fait pour savoir où vous trouvez ?
Alors, notre compagnie s'appelle Ouragan du Rire. Et donc, on a un site internet, ouragandurire.fr. Et on est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur YouTube aussi. On peut voir pas mal de vidéos, comme sur notre site internet, des petits teasers ou des photos de nos spectacles. Et il y a aussi toutes les dates de toutes les représentations un peu partout en France.
Vous êtes en couple ? C'est pas dur d'être 24 heures sur 24 tout le temps ensemble?
Moi, personnellement, je trouve pas.
Je trouve moi pas. Non plus.
Non, tout se goupille. On est complémentaires pour faire tourner nos entreprises. Donc, moi, je trouve que ça va bien.
Être comédien, c'est quand même un métier pas évident parce qu'on est toujours parti. Donc, si l'un a un métier plutôt sédentaire et l'autre qui est tout le temps parti, c'est pas toujours facile. Donc là, d'avoir cette même passion et ce même métier, eh ben, on est ensemble, on savoure d'être ensemble tout le temps. Alors des fois, on fait des étincelles, évidemment, comme dans tous les couples. Mais voilà, on est...
prépare les étincelles pour mettre le feu sur scène.
C'est ça, voilà. On dit souvent que des fois, quand on joue notamment Mars et Vénus, Tempête au sein du couple, on n'arrête pas de s'engueuler. Eh ben, en fait, ça libère et après, on a évacué toutes les tensions.
Alors, je vais vous poser deux questions et vous allez pouvoir répondre tous les deux, faire ping-pong si vous voulez. Comment on gère un théâtre et comment on gère les tournées ? Parce que c'est un boulot de dingue. Parce que vous êtes autoproducteur. Vous n'avez pas de production qui s'occupe de vous, donc vous faites vraiment tout.
Alors le théâtre, c'est un travail au jour le jour. Il n'y a pas de jour de repos, c'est plus usant que les tournées. C'est vraiment, voilà. Il y a aussi la gestion humaine, parce qu'il y avait à la boîte à rire 21 comédiens différents. Et donc, des fois, il y a les petites chamailleries entre comédiens, il y a tout à gérer, quoi. Donc là, c'est plus usant. Maintenant, c'est merveilleux parce que c'est des rencontres. Il faut monter beaucoup de pièces pour pouvoir faire tourner le théâtre. Du coup, c'est beaucoup de comédiens, c'est beaucoup de belles rencontres. C'est, voilà.
Tu n'y avais pas promis, dit Gressel Dérailleur.
Je travaillais beaucoup sur la partie. Je travaille toujours aussi beaucoup sur la partie administrative, qui est pas forcément ma tasse de thé, mais on a une répartition des rôles qui est. Donc Sébastien, il va être un peu la tête pensante. À la fois sur le théâtre, sur la programmation, etc., sur la tournée, sur qu'est-ce qu'on met, les pièces qu'on va mettre, etc. Et puis moi, je suis plus sur les relations avec les lieux, les relations avec les administrations, la partie communication, publicité. Voilà, on a une répartition des rôles qui est un peu comme ça. Ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a des passages, il y a des moments où c'est très, très tendu, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et puis des moments c'est plus relâche. Maintenant, on est rodé, hein, ça fait 10 ans qu'on tourne.
Oui, c'est ça.
On revient à peu près dans les mêmes lieux, donc on a des bons contacts avec les gestionnaires de lieux, à la fois les administratifs, mais aussi les techniciens. Donc voilà, maintenant c'est un peu rodé, donc c'est pas comme avant où on passait beaucoup de temps à chercher des lieux pour nous accueillir, à s'occuper de la partie des dossiers administratifs à faire pour aller dans ces lieux, à répondre aux spécificités techniques qu'on nous demandait. Aujourd'hui, on est plus cool là-dessus parce qu'on a maintenant des lieux réguliers. Donc on passe moins de temps là-dessus, même si chaque année, on trouve quand même des nouveaux lieux à aller pour rencontrer des nouveaux publics.
Il faut savoir que l'intégralité de la tournée, c'est de la location de salle. Ce n'est jamais des programmations de mairie ou des choses comme ça. Comme on veut réunir, c'est-à-dire si on va en Bretagne, il faut faire 3 dates proches de la Bretagne, faire le moins de kilomètres possible. Donc du coup, voilà, c'est de la location et c'est ça le complexe de réussir à faire une tournée en évitant de faire 500 kilomètres par jour. Donc voilà, c'est ça la difficulté, c'est pour ça qu'elle dit. Donc là maintenant, on a 85% de salles où on retourne chaque année et 2, 3, 4 maximum nouvelles salles. Parce qu'on a vu qu'il y avait une salle. Cette année, c'est Châteauroux, par exemple. Voilà, on s'est dit, tiens, on va l'essayer. Donc là, c'est l'inconnu. C'est la première fois qu'on y va. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais on essaye. Mais après, oui, la plupart du temps, les Lyon, Besançon, etc., etc., on y joue depuis presque 10 ans maintenant.
Par jour. Alors quand c'est que le week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. Par contre, quand c'est les vacances scolaires, vous jouez tous les jours sans interruption.
C'est ça. Alors c'est un peu, je crois qu'on est un peu des ovnis dans le métier de savoir jouer plusieurs fois par jour et successivement pendant plusieurs jours. Alors nous, on a fait ce choix-là de condenser en fait dans un temps limité. Parce que justement, si Sébastien l'expliquait, on loue des lieux, donc on essaye de rentabiliser au maximum le lieu dans lequel on est. Donc on joue beaucoup dans un minimum de temps. Et puis, on est, donc admettons, le vendredi à Nantes, le samedi à Rennes, le dimanche à Caen. On réduit au maximum les frais de logistique, de transport, d'hébergement. Donc, c'est pour ça qu'on condense en fait au maximum la tournée et on tourne sur deux mois et demi maximum, quoi. C'est fatigant, hein, c'est un rythme qui est quand même très soutenu, on s'y adapte.
Après ça, c'est les entrepreneurs qui y parlent, parce que quand on me dit que la salle, c'est des sommes, attention, hein, c'est des sommes des fois astronomiques, hein, la location des salles. Si on me dit que ça sera le même prix que je joue une fois ou que je joue quatre fois, moi j'ai vite choisi, hein, je joue quatre fois, alors c'est fatigant. Mais attention, hein, y en a qui vont à l'usine tous les jours. Nous, c'est que du bonheur, hein. C'est un échange avec les gens, ils rigolent, on se marre, quoi. C'est assez addictif, hein. C'est pas facile de dire un jour j'arrêterai, hein, parce que voilà, tant que le corps y suit, on sera là.
Mais vous ferez votre chemin, vous.
Et comment c'est perçu, justement, parce qu'un café-théâtre qui joue plusieurs fois, c'est régulier, mais des salles que vous louez comme ça, les gens comme en mairie ou même association ou quoi que ce soit, comment ils le perçoivent de dire bah, on va jouer 3-4 fois?
Bon, ceux avec qui on a l'habitude de venir maintenant, ils savent comment on travaille, donc ça va. Mais il y a effectivement, voilà, on est quand même une bizarrerie dans leur monde.
C'est pas dommage, c'est pas dommage.
Des fois, ils se disent, mais non, on n'arrivera jamais à faire sortir la première séance pour faire rentrer les spectateurs de la deuxième séance, surtout si c'est complet, comment vous allez faire? Donc ils sont plus en stress et nous on essaye de les rassurer. Mais oui, c'est pas du tout commun dans le fonctionnement habituel des théâtres de faire 2, 3, 4 représentations dans une même journée. C'est quand même rare.
En sachant que c'est les grosses salles, c'est pas des salles de 100 personnes.
C'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà, des fois il y en a, ils disent ben, est-ce qu'on peut changer les horaires? Donc nous on essaye de négocier, ben nous on a l'habitude de faire comme ça. Donc des fois on s'adapte quand même à eux, puis des fois on leur dit mais non, rassurez-vous, ça va bien se passer. Puis en général on n'a jamais eu d'accro, donc ça, c'est qu'on a, on a tout gagné.
Être moins sérieux, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter?
Moi, je me souviendrai toujours de la première fois où on est allé à Nancy. Première salle qui nous avait été annoncée comme tout équipé, son et lumière, tout va bien. Donc, on n'avait pas emmené de matériel supplémentaire. Déjà, pour récupérer les clés, il n'y avait personne pour nous ouvrir. On a dû aller forcer la main à la mairie. C'était un samedi, je crois, ou même un dimanche. Un samedi, enfin, peu importe. Donc, il n'y avait personne. Le gardien, il ne voulait pas nous donner les clés. Bon, ben, bref, on a déjà perdu je ne sais pas combien de temps. Au moment de l'installation technique, rien ne marchait. On a dû appeler, je ne sais pas, tout un tas de gens qui sont venus là. À passer leur tête, essayer d'expliquer, de montrer techniquement comment ça fonctionnait, mais ils n'y connaissaient rien. Bref, on a démarré le spectacle, il y avait encore plein de gens. Donc on avait fait rentrer les spectateurs dans la salle. Sur scène, il y avait encore tout un tas de gens qui essayaient de faire marcher les lumières, le son. Non, ça a été chaud. Après, donc on en a rigolé, les spectateurs, et il y a 10 ans cette affaire, 7 ans.
7 ans, ouais.
Il y a encore des gens aujourd'hui qui nous disent « Bah oui, mais moi j'y étais aussi cette fois-là !» Non, ça, c'était un gros stress. Après, on en rigole, mais sur le coup, on a moins rigolé.
Depuis maintenant, il y a un mec qui s'appelle Fabrice qui s'occupe de la salle. Et tout se passe bien. Ils ont un peu mieux équipé la salle. En tout cas, il n'y a pas pléthore de spots, mais ceux qu'il y a, ils s'allument. Du coup, c'est toujours un plaisir de revenir à Nancy.
Mais oui, c'est clair.
On est à Nantes, on est sur scène, on commence à jouer, tout se passe bien, puis d'un seul coup, il y a tout qui disjoncte. À 30 minutes, on avait. Et là, il y a 400 personnes dans la salle, tout se passe super bien. Donc là, il faut improviser. Donc le micro ne marche plus, hein, puisqu'il n'y a plus de... Donc j'enlève le micro, je me mets en bord de scène, et je commence à faire des extraits de mon seul en scène, On est tous le con d'un autre, un petit peu de panique à la maison de retraite, et ça dure quand même. Hein, donc, parce que là, je me dis, il ne faut pas les perdre.
Parce que les gens qui t'éclairent avec les portables.
Oui, ouais, les gens éclairaient avec les portables, donc ils étaient de bonne composition, hein, ils le prenaient à la rigolade, c'était le but, quoi. Il fallait pas qu'il s'en aille, parce qu'il restait un bout de spectacle quand même derrière, peut-être même la moitié. Et puis ça s'est bien passé, les régisseurs ont couru dans tous les sens, et puis finalement le son est revenu et on s'est bien marré, quoi. C'était une belle...
Sans lumière, parce qu'il n'y avait vraiment
plus rien. Ouais, c'est vrai. Sur le coup, c'est dur, mais c'était un bon souvenir, parce que depuis, on continue à aller à Nantes et à bien s'amuser là-bas.
On a terminé aussi une représentation à la Boîte à Rire à Lille... avec l'éclairage des téléphones portables, Mars et Vénus. Mais là, c'était une coupure d'électricité du quartier. Et du coup, on n'avait pas la main pour faire quoi que ce soit, mais on a terminé comme ça, avec l'éclairage.
Avec une grosse ambiance. Hein. Les gens, ils aiment bien aussi tout se passe pas comme prévu, mais qu'ils continuent à rigoler et que ça se passe bien, quoi. Donc c'est vrai, c'est des bons souvenirs, tout ça.
À vous qui a de quoi se la prendre et se la mordre.
Ce qu'on aime beaucoup, c'est quand il y en a un des deux qui a un trou de mémoire, on se moque de l'autre.
Souvent, c'est moi.
On se moque de l'autre et ça plaît aux gens de pas avoir le même spectacle que les mecs ont eu la veille, quoi. Donc, ils adorent ça. Donc, et puis, on aime bien faire des interactions avec le public. Les gens, ils se sentent concernés et ils rigolent encore plus.
Mm. Ouais, et puis, vous jouez des textes, ils sont écrits, mais vous improvisez beaucoup aussi.
Oui, ça fait partie du métier, je trouve. Je trouve que... les gens, quand ils sont concernés par le truc, qu'on les prend à partie, ils se disent « oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a été cons ?» Ils se marrent d'eux-mêmes, quoi. Et c'est quand même du théâtre particulier. On s'amuse beaucoup. Si c'était tout le temps la même chose, qu'on récitait un texte et que c'était tout le temps pareil, plus que le public, c'est nous-mêmes qui... ça nous languirait à force. Et du coup, on s'amuse vraiment, vraiment, vraiment bien.
Oui, même si c'est des spectacles qu'on joue, notamment Mars et Vénus, on joue depuis très longtemps maintenant, à chaque fois qu'on joue, à chaque fois c'est différent. Donc, parce que le public est différent, les réactions sont différentes. On a, il y a une succession de vannes, on se dit, tiens, celle-là, on est sûr que ça va rire. Ce soir-là, ça ne rigole pas à celle-là, mais ça va rire à une autre. Mais en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que même si... on a des spectacles qu'on joue depuis longtemps. À chaque fois, on remet sur scène notre ouvrage, comme on dit. Mais chaque jour, chaque représentation est différente.
Il faut savoir que le public, il est hyper important. Plus ils vont nous donner, et plus on va leur donner. Si à chaque fois qu'ils remettent une pièce dans le jukebox, nous, on redémarre. Il n'y a pas de problème. Donc un spectacle, il peut durer jusqu'à 2 heures. Hein, parce que le public s'éclate, et nous aussi. Et c'est vraiment donnant. Le public est hyper important. Il ne le sait pas toujours. Mais il compte beaucoup. Des fois, je dis c'est 50-50, quoi. Donc lâchez-vous dans nos spectacles, venez et vous allez vous éclater et on va bien se marrer, quoi.
C'est pour ça aussi, je voudrais quand même dire, la petite chauffe avant de démarrer, qui est faite donc par toi, elle est super importante parce qu'en fait, les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de venir au spectacle, n'ont pas l'habitude de venir au théâtre. On leur a offert des places pour Noël ou enfin, peu importe les situations. Et du coup, ils ne connaissent pas les codes. Ils ne savent pas qu'il faut applaudir, qu'il ne faut pas hésiter à rire et pas à rire étouffé, mais se lâcher. Donc du coup, quand toi, tu travailles et tu leur expliques tous ces codes-là avec tes mots, avec ton humour. Et...
ils ne comprennent rien.
Et donc, on voit bien que ça les libère et que nous, quand on arrive sur scène, on ne va pas dire que la moitié du travail est fait, mais en tout cas, on gagne du temps, nous, À aller les chercher parce qu'ils ont déjà compris un certain nombre de choses qu'il faut, fallait applaudir, qu'il faut se libérer, essayer de rire, répondre quand on s'adresse à eux. Bref, voilà, donc c'est quand même super important. C'est même une première partie pour moi, cette chauffe-là. Et on le voit bien quand on est sans toi, ça se passe complètement différemment.
Ah, vous jouez en extérieur aussi ?
Sans toi ? Non, moi j'ai jamais fait encore en extérieur.
Toi, tu l'as fait en extérieur.
Oui, j'ai fait. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur parce que moi j'avais fait à Roquefort des Corbières sur une place de village. Et ben, c'est-à-dire il y avait des chaises avec énormément de spectateurs. Ils avaient rajouté des chaises, c'était super. Il y avait plus de 200 personnes. Mais il y avait aussi les enfants qui jouaient à cache-cache. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a tout le monde. C'est un peu plus dur, mais quand c'est une belle soirée d'été, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Puis, il me semble que la mairie, ils avaient invité les gens. Donc ça, c'était, il y avait plein de monde. Et ils me disaient, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc, vous voyez, les mairies, il faut prendre les humoristes. Les gens, ils adorent ça.
Alors, justement, tu dis que c'est plus dur. Est-ce que c'est aussi dur que quand les gens, ils sont encore en train de manger? Ou c'est différent?
Non, c'est différent. Ils sont quand même là. Non, quand les gens, ils mangent, il ne faut pas jouer. Soit il y a le repas et nous on joue après, soit on joue avant. Parce que comme ça les gens ils ont l'attention pour le spectacle, puis après ils passent une bonne soirée devant leur repas. Mais en même temps, ben, il y a les serveurs qui vont passer, il y a un verre de vin qui va tomber, et tout ça, ça court-circuite le spectacle. Donc non, quand une mairie ou un organisateur me propose, je dis il faut faire. C'est comme les entractes. Un entracte, ça fait tout retomber. C'est-à-dire qu'on est nous, ce qu'on essaye de créer, c'est une mécanique du rire. C'est-à-dire, c'est une phrase, un rire, deux phrases, un rire. Voilà. Et quand ça s'est installé, on peut dire prout, il rit. J'exagère, mais voilà. La mécanique du rire, c'est vraiment hyper important. Quand on met un entracte, il va falloir recréer la mécanique du rire. Et ça peut prendre un sketch de perdu. Donc, du coup, on fait tout le spectacle et ensuite, on peut s'amuser. On peut manger, on peut danser, je ne sais quoi. Mais le spectacle, il faut pas qu'il y ait d'entracte.
Pas d'interruption.
Ouais, non, des fois, ça les gêne, je comprends. Ils voudraient vendre des boissons, des choses. Mais c'est au détriment du spectacle. Donc voilà.
Mais vous avez déjà eu des interruptions. Enfin, une, je pense, à Besançon, qui vous a bien... Il a fallu repartir après.
Ah oui, là, c'était plutôt... Pas drôle pour la dame. Il y a une personne qui a eu un malaise dans la salle. Et en fait, elle est restée dans la salle. Les SIAP sont intervenus. Ils ont appelé le SAMU, je crois, les pompiers. Et donc, ça a duré un petit peu de temps, le temps qu'ils arrivent.
40 minutes.
40 minutes, voilà. Et donc, nous, on a arrêté le spectacle. C'était au secours, ma femme veut jouir. Donc, on était un peu...
Du coup, j'ai donné des précisions sur les positions, tout ça en attendant quoi. Non, c'était là aussi, il a fallu improviser. Bon, après, les gens étaient de bonne composition, ils ont bien compris. Et donc, pendant 40 minutes, on a quand même échangé avec les gens en rigolant.
En fait, le but était de ne pas les perdre.
C'est ça.
C'est ça. Puis après, on ne pouvait pas complètement rire parce que cette dame, elle était là allongée devant nous. Et puis
Les SIAP, ils faisaient les positions, vous disiez. Il a tourné dans tous les sens. Hein.
Et puis il y en a d'autres, ils disaient donc on naviguait, on essayait de temporiser entre être quand même un peu toujours dans l'humour, mais tout en respectant cette pauvre femme qui était là par terre et on attendait les secours quoi. Et puis on l'a repris une fois que le SAMU est intervenu. Ça n'a pas été si difficile que
ça. Non, ça s'est bien passé. Ouais, franchement, les gens étaient vraiment de bonne composition, puis ils avaient envie de se marrer. Donc, très vite, dès qu'on a redémarré, ça a rigolé. C'était une bonne soirée aussi.
Et là, c'était la dernière séance. Donc, on n'avait pas ce risque d'avoir perdu 40 minutes pour ensuite faire décaler les autres spectacles. Donc, voilà, sur ce coup-là, ça a plutôt été un bon truc, quoi.
Mais en parlant de dernière séance, là tu me tends une perche, vous jouez dans le...
Oui,
le cinéma de la dernière séance avec Eddie Mitchell.
C'est ça, qui s'appelle le Palace à Beaumont-sur-Oise.
Alors les gens vont dire, non c'est pas vrai, c'était à Paris, c'était le Rex, c'était ceci. Si, quand l'autre était en travaux, c'est là qu'ils allaient.
C'est ça, Moi, je sais même pas si c'était quand il était en travaux. Il faisait toutes les...
Non, non, pas toutes. C'est quand l'autre était en travaux.
Ah bon
Paris, ouais, ouais.
Ah bah, écoute. Et puis, c'est, ouais, un, très beau, c'est théâtre, un, beau ouais. lieu, un beau lieu qui a un cinéma à la base et qui a une scène et qui accueille, enfin, qu'on loue de temps en temps pour nos représentations en région parisienne, parce qu'sur Paris, on y est peu. Mais on va effectivement dans cet endroit qui est vraiment un bel endroit.
Qui est resté authentique en fait.
Ouais, vraiment. Vraiment. Her hair is hollow gold. Her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice.
Colette, une question pour toi. Tu as fait une fois Avignon. C'est quoi tes souvenirs d'Avignon?
Alors, c'est un peu le graal du comédien, Avignon. Hein, on se dit, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Donc, je l'ai fait. Je suis contente d'avoir eu cette opportunité qui m'avait été offerte par Seb. Mais c'est pas un des meilleurs souvenirs de comédienne que j'ai eu. C'est un public qui est quand même assez difficile. Qui alors, est-ce qu'ils consomment beaucoup de pièces et puis du coup ils se lâchent plus, je ne sais pas. Mais c'est pas voilà. Après, c'est hyper stressant parce que on joue et puis quand on joue pas, on fly dans la rue. Il y a la chaleur. Quand on fly pas, et ben on retourne dormir. Et puis quand on a fini de dormir, et ben on repart flyer. On joue. Et ben, enfin bref, c'est un mois quand même assez stressant, très fatigant. Quand on est sur scène, on n'y pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'y ai pas pris un plaisir de folie. J'ai beaucoup plus de plaisir à jouer en tournée partout en France que pendant ce mois d'Avignon.
Et toi, Seb, tu l'as fait plusieurs fois, tes souvenirs?
Ben déjà, c'était avec les premières fois que j'ai fait avec Vincent, je découvrais. Donc la première année, je jouais dans une pièce. Comment devenir célèbre quand on est jeune, con et sans talent? Bon, déjà, je me demande s'il ne me passait pas un message.
Ouais, c'est pas faux.
L'année d'après, je commence avec On est tous le con d'un autre. Et là, complet du premier au dernier jour. Je ne m'étais pas préparé à ça. Donc là, c'était vraiment le pied, mais c'est vrai que c'est fatigant. Et je me rappelle plus du nom du film, il y a un film où le mec il revit la même journée, il se réveille à chaque fois, il revit la même journée. Et là, c'est ce ressentiment qu'on a, c'est ça. Parce que tous les jours, donc on joue dans le même théâtre, tous les jours on fly au même endroit, tous les jours on se lève à la même heure, on repart à la même heure. Et le lendemain, il y a des fois on dit hier, mais on ne sait pas si c'était hier ou si c'était il y a 4 jours. Parce qu'on refait tout le temps la même chose. Donc, ouais, et quand on a goûté aux grandes tournées dans des grandes salles, c'est un peu compliqué de revenir à ça avec. Je l'assimile un peu au public parisien. On dirait fait, des fois, les mecs, ils ont vu 8, 10 spectacles dans la journée. Ils sont un peu, des fois un peu blasés. Donc, on n'arrivait pas à retrouver les ambiances qu'on avait dans les grandes salles et en province, entre guillemets, même si Avignon. On n'est pas si con quand même, on sait que c'est en province, mais mais voilà, c'est un public un peu plus élitiste et qui, des fois, n'attend pas spécialement notre humour un petit peu baudriche, quoi. Alors attention, on n'a pas pris bide sur bide, hein, mais quand on joue devant 400 personnes qui font une standing à la fin, là, les standings à Avignon, on les compte un peu plus. Allez, on ne dit pas qu'on n'en a pas eu, mais si tu en as eu une dizaine et que d'habitude, c'est un spectacle, une standing, ça fait drôle. Donc c'est pas au début, c'est les meilleurs souvenirs parce que c'était complet tout le temps. Enfin là aussi on avait du monde. Hein. C'est pas une histoire de pas complet. C'est une histoire de fatigue.
Ouais, mais en même temps, flyer de 9h du matin jusqu'à 23h et jouer deux fois.
C'est ça. Donc c'était ouais, à chaque fois que je suis allé, j'ai joué deux fois parce que à l'époque je faisais moi mon mari mes emmerdes. Et juste derrière mon one derrière, ça c'était c'est des bons souvenirs quand même, mais c'est des conditions, c'est pas si simple. Voilà.
Moi, je me rappelle en 2018, c'était la Coupe du Monde, et quand même la salle n'était pas complète, mais un des meilleurs publics, c'était justement celui de la finale qui voulait pas regarder la finale de l'équipe de France.
Ah oui, c'est vrai.
On a eu une ambiance de fou, c'est alors vrai. Qu'ils n'étaient pas nombreux.
Ouais.
Ouais, c'est vrai, il y avait des choses comme ça. Parce que nous, on voulait jouer quoi qu'il arrive.
Il
ouais,
y, si... y en a qui avaient annulé. Et ouais. On, avait
on a récupéré leur public, merci à eux.
Ouais.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.
Je vais me retourner, je ne vais pas t'écouter, les auditeurs vont pas t'écouter, mais j'aimerais que tu t'adresses à Colette et que tu lui dises ce que tu as envie de lui dire, aussi bien comédienne que autre, quelque chose, voilà, je me retourne.
Mais écoute, bravo d'avoir su lâcher tout ton travail, bravo d'être toi, parce que dans toutes mes conneries, il faut suivre des fois, ouais. Quand on est en train de faire l'amour et que je suis là et je dis « Oh oui, oui, oui !» Je l'ai trouvé la fin de mon sketch. Et ben, c'est la seule gonzesse qui a trouvé ça plutôt rigolo et qui me tend le dictaphone et qui me dit « Allez, finis-le ton sketch ! Oh oui !» Non, elle me suit dans tous mes délires et puis on s'éclate la vie qu'on a, quoi. Voilà. Merci.
Et toi, Colette, t'as une réponse ?
Oh bah, il me fait pleurer. bah moi, je dis merci aussi parce que ça a changé ma vie. Et voilà, je menais une vie plutôt agréable, mais un peu pépère, un peu mémère. Et puis de découvrir la scène et la joie d'être sur scène, je ne l'aurais jamais fait sans toi. C'est pas toujours facile, mais je ne changerai rien pour rien au monde. La vie qu'on a aujourd'hui, c'est celle que j'aurais rêvée depuis toujours. Merci, merci.
Avec plaisir.
Bon, bah, je vais mettre mon mot aussi, alors. 2013, on se rend compte, Seb. Ouais. La première fois, je viens de gratter 20 places de spectacle gratos.
Oui, c'est vrai.
Je t'ai plus lâché. C'est bien fait chier. Et par contre, mais je voudrais vous dire merci à tous les deux. Parce que bah, quand j'ai été bien malade et que je me sentais inutile à tout, puisque je pouvais plus rien faire, bah, vous m'avez ouvert votre cœur déjà, votre main, et puis moi vous faire aussi l'occasion de revenir utile. En me prenant comme régisseur sur toutes vos tournées et au théâtre. Et rien que pour ça, bah, merci. Et puis, bah, vous n'êtes pas des amis, vous faites partie de la famille, hein, j'espère que vous le savez. Et puis, bah, voilà, je ne sais pas quoi dire, mais merci pour tout, quoi. Là, c'est ma dernière en plus, donc c'est dur. Je vous quitte cette année. Mais voilà, c'est pas adieu, c'est au revoir.
Tu nous l'as bien rendu. Merci à toi.
Merci, merci.
On va rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver.
Alors, faut nous suivre sur nos réseaux sociaux, Ouragan du Rire, sur Facebook, sur Internet, ouragandurire.fr.
L'année prochaine, on revient avec des nouvelles pièces. Faut pas pousser papy et mamie dans les orties. Donc là, n'hésitez pas, on va bien se marrer. Et un autre spectacle qui s'appelle Mon mariage, mes emmerdes. N'hésitez pas à venir rigoler avec nous. Je pense que vous le regretterez pas.
Merci, merci de cette interview et...
Merci à vous, le public, parce que c'est grâce à vous qu'on vit. Merci.
Et puis, merci d'écouter l'émission, parce que je serais bien emmerdé aussi, moi.
Oui, prévenez tout le monde, vous pouvez réécouter l'émission, tout ça. Donc, merci à vous.
Au revoir, les auditeurs.
Salut.
À toi, à la façon que tu as d'être belle.